Regardez! Là-bas! Ils reviennent! Perdez les issues!
C'est ici que tout va se jouer.
La Légion Humungus vous salue!
Dans un monde sans carburant.
Humungus règne sur les terres désolées!
Je suis profondément déçu, vous avez voulu évacuer le carburant noir hors de mon territoire!
Défendre le carburant!
Non, on ne partira jamais!
Donnez-moi la pompe, le stock d'essence et toute l'installation!
Voici une terre qui attend l'arrivée d'un héros.
Tu vois, si jamais quelqu'un peut entrer là-dedans, c'est bien toi.
Voici Mad Max 2, le défi. Max.
Un virtuose du volant comme toi, on n'en voit pas souvent.
Le guerrier de la route.
Je conduis comme un chef. Je tire mon chapeau, je possède le dernier intercepteur V8.
Chaque jour, nous devenons plus faibles et il se renforce.
Si vous voulez vous en aller, adressez-vous à moi. Pour aller chercher le camion, il me faut 20 litres de gasoil.
D'accord, tu peux y aller.
Toi, tu peux courir, mais pas te cacher.
On va s'arracher d'ici ou se cracher.
Je me suis trompé sur ton compte, excuse-moi.
Quand chacun ne pense qu'à sa peau. Quand on ne peut plus fuir. Quand il ne reste plus qu'une dernière chance. Prier pour qu'il soit encore là, quelque part. Mad Max 2, le défi.
Salut à tous et bienvenue sur Grand Écran. Oui, Mad Max 2, le défi, la bonne vieille bande-annonce hein, de l'époque. Hein,
je savais pas
film.
Qu'il y avait un E à Mad.
Mad Max 2, le défi. Un film de Jean-Luc Godard. Non, c'est de George Miller. Eh oui. À force de travailler sur les clichés des bandes-annonces, il faut quand même revenir là-dessus. Non, c'était quand même assez spécifique à l'époque. Oui, donc, on va parler de la saga Mad Max. On ne va pas parler seulement d'un film. On va parler vraiment des 5 films. Donc, du 1, 2, 3, et bien évidemment de Furiosa et de Furiosa, qui est également sorti il y a quelques temps. Oui. Et ça permet de parler un peu de Furiosa, parce que film s'est fait un petit peu... Boudé par le public, donc
c'est un peu lui rendre hommage. Et puis comme on fait plus de revue critique, ça va être l'occasion d'en parler en long, parce que c'est un de nos films qu'on a vraiment bien aimé cette année en plus.
Très clairement. Alors oui, donc pour parler un petit peu plus sur la saga Mad Max, je pense qu'il faut revenir forcément sur le style Mad Max. Derrière Mad Max, c'est forcément un gros nom derrière, c'est George Miller, le réalisateur, qui a donc réalisé les 5. Il faut quand même le signaler, hein. Pour une grande saga, c'est rare qu'un réalisateur se consacre uniquement sur toute cette saga. Et c'est vrai qu'en fait, George Miller, donc réalisateur australien, qui a commencé par une simple série B avec Mad Max 1, a finalement fini par faire des gros blockbusters avec cette même licence quand même.
Dès le deuxième,
ça reste encore. C'est pas un gros blockbuster, mais il y avait quand même du budget.
C'est quand même, à l'époque, c'était le film australien avec le plus de budget de l'histoire. Hein,
donc c'était
vraiment le premier, évidemment, hein, si tu compares au standard hollywoodien, c'est pas grand-chose, mais déjà entre le 1 et le 2, il est passé à 10 fois plus de budget, donc alors, c'est pas rien.
Pour revenir sur la petite histoire, hein, le premier Mad Max est sorti en 1979, il avait coûté 400 000 dollars et il en a rapporté plus de 100 millions.
Absolument.
C'est un des films les plus rentables de l'histoire du cinéma.
Ce qui est assez incroyable, c'est que c'est même pas tant sur le marché américain qu'il a fonctionné.
À travers le monde,
à travers le monde. Donc ça a été vraiment une énorme surprise puisque comme tu dis, quoi, c'est un film qui avait vraiment coûté rien,
qui a lancé notamment la carrière de Mel Gibson.
De Mel Gibson et de George Miller, hein, le bonhomme. Dès qu'il a eu ce succès de Mad Max, on lui a notamment proposé de réaliser le premier Rambo. Finalement, voilà. Ça a été, je ne sais plus le nom du réel mince de Rambo, c'est pas grave.
Ted Kotcheff.
Merci Ted Kotcheff. Mais en tout cas, on lui a proposé là, il a préféré plutôt se tourner vers la suite, on en reparlera, est-ce que c'est vraiment une suite ou un prolongement du premier. Mais en tout cas, se concentrer sur la saga qu'il avait, saga pas encore à l'époque, mais en tout cas la mythologie qu'il avait amorcée avec le premier Mad Max.
Oui, de toute manière, mythologie, on va en parler forcément durant toute l'émission, mais c'est vrai que le style Mad Max, en fait, Miller en fait a fait vraiment ce que l'on appelle un monde cohérent et qui a un avancement sur les différentes étapes au moment du milieu du genre qu'est le post-apo, parce que finalement la saga Mad Max tourne autour du ce que l'on appelle le post-apocalyptique, donc c'est-à-dire la fin du monde, la fin de notre civilisation et l'avènement d'une autre sur les ruines de celle-ci. Dans le premier Mad Max, on le voit notamment à travers le principe de fin de civilisation, le chaos et notamment la fin de la société. Mad Max 2, là, on a des décors plus désertiques, ça travaille sur le principe de catastrophe environnementale et bien évidemment la guerre des ressources comme le pétrole.
Le choc pétrolier de l'époque, bien sûr.
Qui est relié avec le choc pétrolier forcément de la période où le film est sorti. Mad Max 3, là, on est plus basé sur un contexte nucléaire, on retrouve notamment l'histoire d'eau polluée et aussi, d'une certaine manière, de la recherche d'un Eden, d'un paradis. Et donc les deux derniers, qui sont sortis assez récemment, donc Mad Max Fury Road et Furiosa, là on est vraiment sur le principe d'une reconstruction un peu tribale, qui semble avoir été faite, mais surtout forcément sur des tyrans qui dominent le monde et les insurrections qui vont mener par la suite.
Complètement. Ce qui est assez intéressant, c'est de suivre l'évolution des films Mad Max en fonction aussi des moyens qu'ils ont. C'est-à-dire que le premier, il n'y a vraiment quasiment aucun moyen dessus. Et on est simplement sur des types qui sont habillés en cuir et encore juste les deux acteurs principaux, le reste c'était du simili-cuir.
C'est ça.
Des voitures. Ouais. Vraiment. Je sais qu'à l'époque, ils avaient le droit au tournage, tellement ils n'avaient vraiment pas d'argent pour négocier. Ils n'avaient le droit que de filmer les bâtiments abandonnés, quoi. Vraiment, rien d'autre.
Alors, quand vous êtes dans l'outback australien, ça tombe bien.
Ça tombe bien.
Il y en a beaucoup.
C'est pas ce qui manque. Mais en tout cas, c'est pour dire que la peinture du post-apo a été vraiment influencée par le budget qu'avait George Miller à l'époque et la manière très maligne qu'ils ont fait pour réaliser le film dans ces conditions-là.
Et il faut le signaler, en fait, Mad Max est un peu le porte-étendard de ce qu'on a appelé après la house-ploitation, c'est-à-dire le cinéma d'exploitation australien, donc du cinéma de genre, de série B, qui soit basé sur de la science-fiction, des films d'action, de l'horreur ou autre.
Du fantastique. Oui,
et c'est vrai que donc Miller a un peu été le porte-étendard, mais plutôt de côté quand même, parce qu'il y en a beaucoup d'autres réalisateurs comme Tenthart Mitchell qui étaient plus recensés sur le principe d'exploitation, mais en fait Mad Max a permis de lancer tout ce système d'exploitation dans le cinéma australien. En fait.
Ouais, complètement. Bah, Mad Max, c'est son plus grand représentant.
Et c'est cette folie à travers le film, notamment les différentes cascades, qui ont prouvé et montré qu'en fait, le cinéma australien, c'est un peu des fous furieux. Quoi.
C'est complètement des fous furieux. Et de toute façon, le premier Mad Max a cette rage et ce côté fou des films de la exploitation. Mmh. Vraiment, ça ne résigne pas sur les scènes chocs. Il n'y a aucune règle d'humanité puisqu'on parle de post-apo. Et encore, le premier n'est pas tellement post-apo. On est vraiment plus au moment où on sent que ça va basculer. Il n'y a pas encore l'imagerie de ces déserts, de ces vagabonds. Ce road warrior n'est pas encore tout à fait là. On sent une civilisation qui est en train de décliner avec ses premiers codes, c'est-à-dire un fétichisme absolu de la voiture, des bandits qui cavalent partout dans les routes. D'ailleurs, c'est marrant pour compléter cette histoire de décor, mais il n'y avait quasiment pas de figurants ni d'acteurs. Ce qui fait que dans le film, on ne voit pas, à part les bandits et les flics, on voit pas grand monde d'autres, en fait.
Très peu de civils, en fait.
Et ce qui donne tout de suite aussi vraiment un climat de danger, qui est là, où on se dit, mais en fait, il n'y a plus que eux qui se battent et tout le monde s'est réfugié ailleurs, on ne sait pas où, a été décimé, on ne sait pas. Le peu de civils qu'il y a, autant dire qu'ils passent un très mauvais moment dès qu'ils croisent les vagabonds. Donc voilà, il y a quand même, forcément. Et après, Mad Max 2, là, il fait évoluer tout ce qu'il a invoqué comme esthétique et comme style dans le 1, mais avec beaucoup plus de budget. Et on retrouve surtout une des constantes des premiers Mad Max, qui est l'esthétique des costumes et des vagabonds en question, en fait. avec ce penchant pour ces costumes un peu sadomaso, quoi, qui sont là, bon, qui étaient très empruntés par le punk, hein, on est quand même dans les débuts années 80.
En fait, chaque film à sa sortie vraiment reflète un des aspects de la société actuelle, enfin, quand le film, le contexte était sorti. Il faut quand même toujours le signaler, quand un film sort, il y a toujours vraiment un contexte sociétal à retrouver derrière.
Oui, et c'est d'autant plus important avec la saga Mad Max, parce que très vite, et moi je trouve que c'est dès le 3, on s'affranchit complètement de cette idée de suite chronologique. Mm-hmm. En fait, ça pourrait se passer n'importe quand. D'ailleurs, au début de chaque Mad Max, sauf le premier, il y a une introduction qui est faite pour expliquer qu'est-ce qui a mené à la fin de ce monde-là, quoi. Mm-hmm. Mais du coup, c'est juste pour rappel du contexte, parce que la chronologie même, et d'ailleurs, ça va aller jusqu'au point où le dernier Mad Max, il n'y a même pas de Max dedans, c'est vraiment Furiosa, quoi. Oui. On est vraiment sur un autre personnage qu'on suit. Et je suis bien incapable, moi, de dire aujourd'hui, Fury Road, il se place quand par rapport à Mad Max 2, etc. Ouais, c'est vraiment... Et donc, George Miller fait vraiment le choix de plutôt, ce personnage-là me plaît, ce que j'ai invoqué comme lieu, là me plaît, je vais le développer, ça va être une mythologie que vraiment un parcours d'un héros chronologiquement dans un décor donné.
C'est ça, en fait. C'est un film qui... c'est toute une saga, en fait, qui est marquée par le principe, d'ailleurs, ça se voit à travers toutes les introductions du film, par notamment le principe de catastrophe écologique, des ravages du capitalisme, de la compétition, tout ça, est forcément aussi très relié à la culture australienne. Tu parlais notamment de la culture de la voiture. En Australie, c'est très, très relatif, très représentatif, comme aux États-Unis, donc, et notamment la légende de l'Interceptor qui a passé les frontières du cinéma avec Mad Max. Et notamment, donc, il faut le savoir, c'est qu'en fait, dans le cinéma d'exploitation australien, un des premiers films s'appelait Les voitures ont mangé Paris, de Peter Weir. Avec notamment toute une espèce de bande de bandits en fait, qui s'attaquent à un village et avec des voitures vraiment totalement modifiées. Parce que c'est un peu dans la culture australienne de modifier son véhicule, d'en faire une espèce de colosse affre à toutes les routes, parce qu'en Australie forcément il n'y a pas que du goudron.
Non, bien sûr que non, mais ce qui fait que c'est le western façon australienne en fait,
c'est ça.
C'est clairement, on est sur chacun sa monture et puis ça va cavaler, et au lieu que ce soit des grandes courses poursuites à cheval, ça va être des grandes courses poursuites sur tout type de véhicules motorisés. Et ce qui est même intéressant, c'est que je trouve encore aujourd'hui où le contexte de post-apo est bien plus en rapport avec le climat, le changement climatique, en Fury Road et Furiosa, il y a quand même, du coup, qu'est-ce qui reste de tout ça ? Eh bien, ça reste ces voitures à pétrole, qui donc dépendant d'énergie fossile, tu vois, et qui restent vraiment les derniers berceaux d'une civilisation qui a complètement disparu. Donc, c'est aussi intéressant ce que raconte comme évolution à travers cette figure du véhicule dans le post-apo George Miller, quoi.
Mais exactement, et surtout ça se relie par forcément, comme tu parlais un petit peu au début pour le premier film, l'esthétique en fait.
Oui.
L'esthétique de chez Mad Max est très particulière. En fait, on est sur une vision assez affûtée de l'époque et des obsessions, comme je le disais. Donc comme t'en parlais, des tenues de cuir donc, qui rappelaient les milieux punk et SM que l'on peut le voir dans le 2, mais on peut le voir aussi forcément même dans les films beaucoup plus récents, notamment avec les War Boys de Immortan Joe, qui ont tous une signification, le culte de la voiture, le culte du V8, notamment avec le principe du « soyez témoin pour raconter la légende
».
Parce que le principe de légende, en fait, il est présent dans tous les films de Max, en fait.
Complètement.
C'est en fait le film... on en parlera un petit peu plus sur forcément le personnage de Max au départ, mais tout ce qui est représenté dans le cinéma de Miller, plus particulièrement, même dans 3000 ans à t'attendre, hein, qui est un autre film dans sa filmographie, c'est l'importance des légendes, du mythe et de la mythification, en fait.
Complètement. Et du coup, le premier fait... C'est marrant, le premier, parce que rien ne destinait presque à ce qu'il y ait une suite, et pourtant, c'est presque comme s'il y avait une origin story de Max, tu vois.
C'est ça. Parce que finalement, le premier Mad Max, c'est une histoire de vengeance, plus ou moins.
C'est une histoire de vengeance, mais une vengeance qui arrive seulement... Alors, la vengeance de Max arrive à la fin, mais tout le film est une histoire de vengeance, puisque donc c'est le chirurgien, un des méchants de... Le grand méchant du premier Mad Max, qui est le chef des bandits. Il y a un de ces mecs, la séquence d'intro, un de ces gars qui se fait buter par la police. Et tout le film, il va vouloir se venger de tous les flics qui l'ont buté. Max compris. Et du coup, ça va être toute sa quête de vengeance à lui pour parvenir jusqu'au moment où un de ses collègues se fait tuer, et puis le moment le plus célèbre de Mad Max 1, c'est-à-dire le meurtre de sa femme et de son enfant, qui vont conduire à Max à passer de l'autre côté. Et d'ailleurs, tout le film joue là-dessus, c'est-à-dire que sur le principe de Vigilante Movie aussi, savoir je suis un flic, je respecte certaines valeurs, un certain ordre, mais à quel moment je vais passer de l'autre côté et basculer du côté des méchants, sachant que parler d'ordre et de valeur dans un monde qui devient post-apocalyptique, c'était déjà assez discutable. Mm-hmm. Et puis il y a cette chose marrante, moi, que je trouve aussi dans le premier, c'est que comme tout, il y a ces tenues en cuir qui sont vraiment moulantes et tout, et je trouve qu'en le regarder aujourd'hui encore, il y a un sous-texte presque queer qui traîne dans le premier Mad Max, avec à se demander si ce Max qui voulait protéger sa famille. Dans le deuxième, c'est encore plus exacerbé, mais dans le premier, on se demande presque si Mel Gibson n'a pas envie de quitter sa famille pour passer de l'autre côté, donc c'est-à-dire rejoindre le milieu queer, je n'en sais rien, tu vois, mais il y a quand même cette... en tout cas, c'est comme ça que ça finit à la fin, quoi, tu vois, il revêt ses vêtements-là,
il est tout seul,
il lui reste plus que ça.
C'est ça. Donc, et notamment, voilà. Donc sa voiture, son V8, son intercepteur.
Comme
tout a une signification, finalement, en fait, la voiture est le principe de liberté et le principe de mouvement. Et le mouvement est forcément très, très intéressant dans le cinéma de George Miller, car le sens du mouvement et du rythme, pardon, c'est vraiment sa marque de fabrique. Alors, George Miller, à la base, en fait, pour venir un petit peu sur le contexte du réalisateur, c'est quelqu'un qui venait du milieu, en fait, de la santé. Il a bossé notamment comme ambulancier et il a vu, en fait, énormément d'accidents de la route et ça lui a inspiré, notamment, à faire le premier Mad Max. Et c'est vrai qu'en fait, George Miller a un style basé sur ce que j'appellerais l'ardeur, en fait. La limpidité, en fait, de la lecture de l'image. Miller, en fait, va vraiment concilier, en fait, toute la précision, l'aspect même chirurgical, hein, comme quoi, sur la façon de travailler le montage de ces séquences, notamment de ces séquences d'action, qui va donc amener, par exemple, la séquence de fin, notamment dans le premier Mad Max, donc la mort d'un des ennemis de Max, où on va vraiment voir image par image, du coup il y a ce plan très reconnu en fait maintenant, où on voit les yeux écarquillés de la victime qui va se faire donc exploser à travers les carcasses, quoi.
Ouais, complètement. Alors,
c'est une chose qui revient assez constamment chez Israël. Le travail des yeux, notamment.
Ouais, le travail des yeux, bien sûr. Et puis, cette faculté de filmer des accidents de la route pas croyables, quoi. Ouais. Et des dégâts sur les victimes. Comme tu l'as dit, il est ambulancier, donc des victimes d'accidents de la route, il en a vu des tas. Ce qui l'a amené à faire ce film. Mais on peut pas dire que Mad Max soit vraiment un film presque documentaire ou reporté d'accidents de la route. C'est un vrai récit de bis, quoi. Vraiment, avec une vraie volonté d'une chose qui est importante chez George Miller et fondamentale, c'est le récit, quoi. C'est vraiment un des grands narrateurs qu'on a aujourd'hui dans l'histoire du cinéma, George Miller.
Ouais, ouais.
Et ce, dès le premier. Et ça passe par, effectivement, beaucoup d'éléments visuels.
Ouais.
On en parlera sur le 2. Fury Road, c'est le plus important, je trouve, là-dessus. Ouais.
Chez Miller, en fait, c'est vraiment des tableaux, en fait.
Oui, complètement.
Fury Road, ça le voit beaucoup, en fait. C'est vraiment surtout à partir de Thunderdome, je trouve, où il va vraiment travailler l'ensemble du panoramique. Alors, on voit déjà dans Mad Max 2, quand il y a forcément la confrontation avec notamment Max qui va découvrir en fait la confrontation entre donc les pétroliers et Humongous, où il va être de loin, parce que finalement il va être le personnage neutre à la base. Et finalement, en fait, Miller va vraiment utiliser plus à partir de Fury Road et même d'une certaine manière dans Thunderdome des plans d'ensemble pour montrer en fait toute la grandeur et la déchéance de ce qu'a provoqué cette humanité envers le milieu naturel.
Ouais, c'est exactement ça. Et puis, je suis en train de penser à 50 trucs, je sais plus ce que je voulais dire. attends, on parlait de Mad Max 2. Non, et on parlait de Fury Road, on y reviendra, mais l'image est quand même super importante.
Oui,
effectivement, c'est quelqu'un qui... Par exemple, Fury Road... J'ai vu que George Miller, à la base, il a déjà, dans un premier temps, imaginé le faire en film, en image de synthèse, comme il avait fait pour Happy Feet.
Oui, oui, oui.
Et en fait, il a reculé. Et en fait, longtemps, il voulait faire un film en noir et blanc. Il l'a fait parce que ça a donné la version black and chrome de Fury Road, qui voulait que ça sorte en salle, mais la Warner a dit c'est mort. Et par contre, cette décision-là vient même du processus de départ de Mad Max Fury Road, où ils voulaient faire un film noir et blanc et muet, carrément.
Ouais.
Je trouve que cette information est hyper importante pour comprendre ce qu'est Fury Road aussi par rapport aux autres Mad Max, quoi. De vraiment passer par l'image et par le récit de choses qu'on va, des détails, des personnages, et surtout de filmer, comme tu disais, le mouvement.
En fait, surtout avec Fury Road, en fait, c'est un réalisateur, là on le voit très très bien dans Fury Road, c'est un réalisateur frénétique. Pourquoi Fury Road? Parce que Fury Road, finalement, en fait, quand on repense à la narration du film, en fait, c'est juste un convoi qui va faire d'un point A à un point B, du point B au point A. Mais la force narrative, en fait, elle est surtout développée donc, par son image, par son monde, mais pas forcément par les personnages en eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages sont assez mutiques, d'une certaine manière.
Oui, mais leur design et leur esthétique racontent tout.
Voilà.
Je veux dire, le personnage de Furiosa est incroyable pour ça.
Première rencontre de Furiosa, vous la voyez, crâne quasiment chauve, rasé de près, avec cette espèce de cambouis sur le crâne, en fait, pour forcément éviter d'avoir le reflet du soleil sur la route, et aussi le bras en moins, donc cette prothèse.
Et elle, elle a ce poste important de conduire le gros camion qui va servir pour aller chercher les ressources et ramener dans la ville.
Donc,
en fait, en très peu de temps, tout est dit sur ce personnage de Furiosa. Et, mais ce qui n'est pas étonnant, moi, j'avais vu dans une interview de George Miller que un des films pour lequel il a vraiment pensé en faisant Fury Road, c'était Le Mécano de la Générale de Buster Keaton.
Ouais.
Et donc, film muet par excellence. C'est une comédie. Hein, Fury Road n'est pas une comédie, qu'on se le dise. Mais enfin, il y a quand même cette volonté de comment filmer le mouvement, comment filmer des personnes qui sont ou pas dans ce mouvement perpétuel, c'est-à-dire cette course-poursuite pour le cas de Fury Road. Quoi.
Mais c'est surtout par l'introduction des personnages, comme tu le dis, en fait, qui est très très intéressante chez George Miller, que ça soit surtout, c'est surtout les antagonistes. En fait, mais dès le premier, en fait, notamment le chirurgien et même des Humongous avec dans le 2, forcément, avec son apparition derrière le pick-up avec son gigantesque masque de hockey et sa tenue en lanière de cuir,
ouais. Puis ses cheveux dégarnis, enfin,
un peu dégarni,
irradié, brûlé,
qui permet de comprendre
trop.
Qu'en fait, voilà, il a vécu quelque chose, il a vécu les guerres. C'est comme Immortan Joe, en fait.
Oui.
Immortan Joe, en fait, il y a très peu de choses qui sont expliquées sur ce personnage, donc que l'on voit dans Fury Road et dans Furiosa, mais par l'histoire de Mad Max, par l'histoire des différents films, on peut comprendre qu'en fait, ce personnage a été un personnage très influent durant les différents conflits, que ça a été forcément, je pense, un personnage très intéressant et très influent donc, durant les guerres des ressources, du pétrole, qu'il a réussi la guerre de l'eau, parce que finalement, avec la citadelle, il est un peu le défendeur aussi de la ressource d'eau naturelle. Et forcément, en fait, ça... on va dire un certain héros, un certain soldat qui devait l'être à cette période-là, Immortan Joe, devient forcément à un moment donné chef suprême, tyran et dictateur.
Ouais, mais c'est, de toute façon, c'est avec Fury Road et Furiosa, une des idées géniales qu'a eu George Miller, mais encore plus avec Furiosa, c'est de raconter des empires, en fait, maintenant que le post-apo est déjà bien installé. On imagine que ça... C'est jamais dit, hein. On imagine que ça fait quand même un certain temps que tout ça s'est passé. Et donc, comme tu dis, avec les conflits qu'il y a pu y avoir, les guerres de territoire et tout ça, il y a des choses qui sont ancrées et il nous raconte, il refait... en fait, le mot mythologie prend tout son sens dans Furiosa, surtout. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment des références constantes aux différentes mythologies, mais qu'elles soient aussi bien latines que grecques, que égyptiennes. Vraiment, il emprunte de partout pour faire vraiment les amener dans l'univers de Mad Max. Qui c'est marrant, parce que plus on avance et moins on est en Australie, même si depuis le début, il voulait nous faire croire qu'on n'était pas en Australie.
Seule Australie.
Le premier, c'est compliqué de ne pas
D'ailleurs,
dire que ce n'est pas l'Australie.
Furiosa, on le voit très clairement.
Et Furiosa, on le voit très clairement.
En nous mettant la map carrément de la Terre, puis on arrive en zoomant sur l'Australie et en plein milieu de l'Outback.
Mais en se disant que bon, que c'est pas juste l'Australie qui est touchée non plus, quoi.
Voilà.
Mais en tout cas, cette histoire se place là. Et donc, tous ces mythes et toute cette imagerie, en fait, il y a les chars, il y a les différents royaumes qui se battent avec les différents empereurs qui ont chacun leur ressources, leur hiérarchie et leur physique, en tout cas leur tenue. Tout ça transposé dans un univers d'Outback australien. Oui, Furiosa, enfin, vraiment, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup aimé le film. C'est un accomplissement de tout ce que veut faire Miller avec sa saga Mad Max, et même dans le cinéma en général, moi, je trouve.
Oui, et comme le dit si bien Guillermo del Toro lors d'un entretien sur Rocky Rama, en fait, il explique, pour moi, en fait, ce qui est intéressant avec l'apocalypse, c'est avant tout de parler de l'humanité. Mmh. Et en fait, c'est tout ce que représente Mad Max, et surtout à travers sa mythologie, parce qu'on va revenir un petit peu plus longuement là-dessus. Donc, la mythologie au-delà de Max, déjà, revenons un peu plus sur le personnage de Max. Au départ, Max, en fait, semble tirailler entre la défense de l'ordre social et le chaos. Parce que finalement, il y a une certaine tendance là-dessus sur son personnage, en fait. C'est-à-dire qu'il est quasiment borderline, et finalement, il va snapper. Enfin, snapper, il va donc switcher suite au meurtre de sa famille, puisqu'il ne lui reste forcément plus que rien. La route, en fait, dans ses films, permet d'échapper forcément au rôle et aux hiérarchies sociales, puis vient forcément la fin du monde, que l'on voit donc dans le second, enfin qui apparaît forcément dans le second, donc ouais. La fin de toute humanité, et donc la vie forcément devient un peu plus tribale, nomade, jusqu'à cette reconstruction un peu plus biaisée et fragile, et ça c'est ce que l'on voit dès le 3 en fait, avec Bartertown, donc dans Thunderdome, et forcément la citadelle dans Fury Road et Furiosa, quoi. Donc c'est un monde en fait qui représente à la perfection, je pense, qu'en fait, ce que peut être l'humanité est face à l'apocalypse.
Ouais, c'est un des éléments centraux de George Miller, en tout cas de sa saga Mad Max, c'est comment survivre, en fait. Et la survie, ça passe pas chez lui par trouver de l'eau, trouver de la nourriture. Non, ça, en fait, dans Mad Max, la survie tient de comment on va pouvoir refaire groupe et comment on va pouvoir collectivement tenir, en fait.
C'est ça.
Il y a presque pas de scène hein, où on les voit, où ils doivent trouver des ressources pour vivre, pour manger, tu vois. Non, c'est vraiment société, comment faire société. Et d'ailleurs, ce qui le fascine même du point de vue individuel, c'est comment ce mec-là qu'on voit au fond a réussi à survivre. Il en parle pour Fury Road, notamment, tout le monde se souvient de ce guitariste aveugle qui joue sur les chars. Et je sais que Miller voulait même faire une BD juste sur lui, tellement il trouvait fascinant de comment ce mec, alors qu'il est aveugle, a réussi à tenir et à être là où il en est. C'est-à-dire que chaque personne, chaque personnage raconte une histoire et porteur d'une histoire à part entière dans le film.
On le voit, tous les personnages en fait ont subi des affres forcément par des radioactivités ou autres. Le personnage même de Max en lui-même hein, en fait hein, il a une blessure à la jambe.
Oui.
On le voit encore dans Mad Max 2 en boitant légèrement et en ayant une attelle. On le voit aussi par différents personnages, donc Humongous, on suppose qu'en fait lui c'est un grand brûlé, forcément peut-être dû aux radiations. Immortan Joe, donc il a un masque pour respirer. Plusieurs de ses lieutenants, c'est pareil, ils ont vraiment des tares assez représentatifs au niveau des visages. Un petit peu moins forcément le personnage de Tina Turner, qui a parce que c'est Tina Turner, j'ai envie de dire.
Parce que c'est Tina Turner. Non, mais c'est là où il va le plus loin.
Malgré sa côte de maille, hein, quand même.
Malgré sa côte de maille, mais tu vois, c'est quand même dans la suite logique. Et,
oui.
Et c'est le 3 est un peu le plus représentatif de faire société, en fait. Et,
ouais.
De trouver.
Recréer un monde.
De recréer un monde. D'ailleurs, elle s'appelle Entité, Tina Turner. Ouais.
Entité, et elle affronte, mince, comment ça s'appelle ? Entité et Master. Donc,
et Master. Et elle a cette réplique célèbre où elle dit « Avant, je n'étais rien et maintenant, je suis... » Enfin, elle ne dit pas ça comme ça, mais elle dit « Avant, je n'étais rien. » En fait, elle s'appelle Entité maintenant. Quoi. Du coup, il y a comment on arrive à se reconstruire et comment, ça, c'est vraiment très important dans Mad Max aussi, comment la souffrance et le post-apo vient nous construire et créer des... des héros, j'ai pas envie de dire le mot héros parce que je pense pas que George Miller soit
des légendes, tout simplement.
En tout cas, des légendes vient se reconstruire un autre individu qu'on n'aurait pas pu être sans ça, en tout cas.
C'est très intéressant ce que tu dis, ça me permet de rebondir là-dessus, parce que est-ce que Max est un simple vengeur solitaire? Parce que finalement, c'est un peu le contexte qui arrive donc dans le The Road Warrior, le tout premier. Mais en fait, dès le 2, en fait, Max est privé de son nom, privé de son identité, parce que finalement, dans le premier, on savait que son nom c'était Max Rokatansky. Finalement, c'est à partir du 2 qu'on ne dit juste Max. Et forcément, Mad Max, c'était le titre accrocheur du film, quoi. Et donc, parce que Rokatansky, en fait, il est mort avec son propre monde.
Oui.
Il est mort avec le premier film, en fait. Donc, en fait, il ne reste que, on va dire, sa silhouette, qui est assez messianique, hein, il faut quand même le signaler, avec un personnage de simple sauveur, un peu quand même malgré lui. Il faut quand même le représenter, que ça soit dans le 2, voire le 3 encore plus. Et le 4 dans Fury Road, en fait, à la base, c'est juste de la survie, mais il comprend que pour survivre, il faut travailler ensemble. Donc en fait, il y a toujours un peu cette étymologie-là, en fait, très messianique du personnage de Max, parce que finalement, il représente dans le 2 et le 3 l'espoir, et aussi forcément, comment dire, c'est marquant par la narration du film, car il y a quand même une voix off, qui est toujours assez représentative dans les Mad Max.
Qui n'est jamais celle de Max d'ailleurs. Hein.
Qui n'est jamais, absolument jamais celle de Max. Dans Mad Max 2, donc, on comprend qu'en fait, la voix du vieillard, en fait, c'est le gamin mutique que l'on croise avec ses boomerangs, donc qui a survécu, donc ça veut dire que la société avec qui il a été a survécu par la suite. Dans Thunderdome, on comprend pareil que ça, après, c'est notamment la colonie d'enfants, en fait, qui a survécu grâce à Max.
Ouais.
Fury Road, c'est... Il n'y en a pas dans Fury Road, il me semble.
Non, il n'y a
mais
pas
c'est
de...
dans Furiosa qu'il y a notamment le raconteur de monde, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est le bras droit de Dementus.
Ouais, tout à
qui
fait.
Qui explique en fait à travers tout...
qui est chargé de garder la mémoire
garder
des histoires.
Garder la mémoire des histoires, oui, voilà.
Oui. Bah,
à travers ses tatouages sur le corps.
Ô combien millerien comme personnage.
Complètement.
Mais en fait, pour compléter ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que dès le Mad Max 2, Max n'est plus personne. Et donc, tout le monde peut, comment dire...
devenir cette légende aussi. Hein.
Devenir cette légende, mais en fait, projeter ce qu'il veut sur ce Max.
C'est-à-dire
que, comme il arrive dans le 2, c'est vraiment... Je ne sais plus comment s'appelle le lieu où ils sont tous regroupés, qu'ils doivent défendre. C'est là où il y a toute la réserve de pétrole que Mungis veut envahir et récupérer. Max arrive là-dedans et voit au début, tout le monde est un peu sceptique parce que bah, c'est le post-apo, il faut être méfiant bien sûr, mais rapidement quand on voit ce qu'il sait faire et que la première attaque, il participe à la défense, enfin il se bat pour sa survie aussi, les gens projettent tout de suite sur lui, tiens, tu vas pouvoir nous sauver. Or c'est pas du tout le cas de Max, etc.
C'est pas sa volonté à la base.
Mais comme il n'a plus d'individualité, il n'a plus presque d'entité lui, hein, puisque c'est devenu vraiment juste un road warrior, hein, il n'a plus rien. Dans ce cas, que ce soit le 2, le 3 ou le Fury Road, chacun projette sur lui ce qu'il a envie d'exaucer comme vœu, en tout cas à ce moment-là. Et Fury Road, c'est, il va être... Alors Fury Road, c'est encore différent, parce que pour moi, la véritable héroïne, c'est Furiosa, c'est pas Max dedans. D'ailleurs, qui est tout de suite montré, dès qu'ils se croisent, il y a une perfusion de sang qui est faite entre les deux.
Voilà.
Hop, on va...
La perfusion de sang est faite. En fait, il y a vraiment cette idée de transmission, et ça se voit encore plus à la fin de Fury Road, parce que finalement, Furiosa donc, arrive à se débarrasser d'Immortan Joe, à revenir à la citadelle, à libérer, on va dire, à libérer en gros guillemets, hein, parce qu'on sait très bien qu'en fait, tout le monde ne va pas monter vers la citadelle. Et donc, possiblement, elle est la future chef tyran de l'histoire. Et donc, elle va monter par cet élévateur. Donc, elle est élevée vers le haut. Et Max, lui, il reste vers le bas en la regardant, mais en partant en arrière.
Ouais, complètement. Et il fait plus partie de cette...
Enfin, il s'en va de l'histoire.
Il s'en va de cette histoire-là.
Parce que c'est un peu aussi cette légende de Max. C'est-à-dire qu'en fait, il accomplit un peu son devoir. Il repart, en fait, vers d'autres aventures.
Et on pourrait très bien le retrouver après. C'est-à-dire
bien sûr.
Peut-être que George Miller l'avait prévu aussi pour la
cinquième. Est-ce que Mad Max 2 est la continuité du premier ? Est-ce que Mad Max 3 est la continuité du 2 ? Non, il n'y a pas vraiment de...
Encore une fois, il remplit cette entité impersonnelle qui est là dans ce monde et qui nous fait voyager d'un endroit à un autre.
Voilà, le film peut avoir plusieurs Max, en fait.
Complètement.
La saga peut avoir plusieurs Max.
Voilà, excepté Furiosa, qui n'en a pas du tout.
Voilà, parce que finalement, je pense que c'est aussi une chose qu'a voulu faire Miller, c'est qu'en fait, il a tellement travaillé ce personnage de Furiosa à travers Fury Road, qu'il voulait vraiment donner, je pense, toute la richesse du personnage.
Ah ben complètement.
Et on le voit à travers le dernier film. Hein.
Complètement. Mais d'ailleurs, au-delà du personnage de Furiosa, il explique qu'en fait, pour créer Fury Road, qui est simplement, il se passe dans un court laps, hein, Fury Road, hein, c'est trois jours de nuit, une course-poursuite, mais pour créer tout l'univers qu'on voit visuellement, il a écrit avec son scénariste, ils ont écrit vraiment tout l'histoire de chaque chose qu'on voit dans le film. C'est-à-dire le moindre personnage qui habille comme ça, il a son histoire. Et du coup, il dit, mais en fait, pour Furiosa, on avait déjà écrit le préquel. C'est tout ce qu'on avait imaginé en passé pour qu'on en arrive là dans Fury Road. Et c'est pour ça qu'il a choisi de pas faire la suite de... Pas par fainéantise, au contraire, hein, il va même plus loin que ce qu'il a pu écrire, mais c'est pas, on raconte pas Mad Max qui part, enfin Max qui part dans un autre endroit, on raconte pas Furiosa qui est maintenant maîtresse de la citadelle, qui d'ailleurs ne dit pas que ce serait aussi une véritable monarchie terrible sous Furiosa, hein, certainement aussi. En tout cas, lui dit qu'il y a de fortes chances quand même, parce qu'on reste quand même dans du Mad Max, donc faut pas non plus rêver. Mais en tout cas, d'enrichir, parce que encore une fois, il c'est tellement un grand conteur, George Miller, que tout est dans les détails du film, quoi. Et Fury Road, alors qu'on a un peu plus de mal, parce que ça me parle, enfin, moi par exemple, ça parle moins. J'ai besoin d'un George Miller qui me déploie un récit, qui me fait vivre plein de personnages et tout.
Est-ce qu'il arrive à faire magnifiquement dès les 5 premières minutes dans Furiosa?
Qu'il arrive à faire dans Furiosa, mais ça reste quand même une course-poursuite, quoi, entre guillemets. C'est un peu exagéré de dire ça, mais ça va. Après, on reviendra tout à l'heure sur les courses-poursuites de Mad Max. Je veux dire, il y a un moment donné, faudra en parler. Et pourquoi ça fout la nique à tout le reste quand c'est sorti aussi, quoi. Mais moi, je le préfère largement dans Furiosa, où il y a 2h30 et ça déploie vraiment du récit. C'est épique de bout en bout, avec des personnages grandioses et qui ont un background qui n'est même pas raconté dans le film, mais qui est visible à l'écran quand même en les voyant.
Ah oui, c'est ça. Et surtout, en fait, comme tu disais, en fait, Miller a développé tout ce monde, mais en fait, il arrive à raconter tout un monde, mais qui est toujours en perpétuelle confrontation, en fait.
Ouais.
C'est, en fait, Max arrive toujours dans un milieu, en fait, où il y a vraiment un conflit entre deux, on va dire, entre deux factions ou deux entités. Finalement, la Main Force Patrol et les voyous dans le 1, c'est un peu ce que l'on voit déjà en prémisse de ce que va être plus tard dans le 2, notamment entre les Raffineurs et Humongous, ou encore Entity et Master dans le 3. Mmh. Et finalement, avec Fury Road et Furiosa, donc on voit notamment Immortan et Furiosa donc dans Fury Road, enfin contre Furiosa dans Fury Road, et Immortan contre Dementius dans Furiosa, parce que finalement, en fait, on n'est pas sur un principe où deux visions du monde s'opposent. C'est surtout, en fait, deux visions du monde assez proches, de dominants, mais qui forcément, c'est un peu comme le serpent qui se mange la queue, en fait. Il y a toujours ce côté perpétuel de conflit interne qui amène par la suite forcément soit une destruction, soit une reconstruction. Quoi.
Oui, c'est sans fin. C'est-à-dire que c'est presque devenu le moteur de ce nouveau monde, en fait,
voilà.
qui crée en fait pour chaque personnage des objectifs à atteindre, en tout cas. Avec aussi quand même cette particularité, c'est que dès le 2, on n'est plus dans le premier où c'est vraiment sur un cadre assez restreint, des routes, où ça reste autour de la ville. Le 2, on sent qu'il y a des déserts immenses et des paysages à perte de vue. Donc on pourrait se dire, et même c'est encore plus le cas dans Furiosa, on pourrait se dire, non mais l'Australie est immense, il n'y a plus qu'un seul désert pour que les gens se croisent en post-apo, faut attendre. Et là, non, pas du tout, tout le temps, quoi. Je veux dire, on peut jamais faire t'as l'impression, regardant même Max, tu peux pas faire un kilomètre sans croiser un bandit qui va venir te piller, quoi, quand même. Et donc il y a ce climat de violence, et surtout ce qui crée qu'on ne peut jamais être immobile dans l'univers de Mad Max. C'est pas possible. Mmh. D'où l'intérêt de la voiture aussi, c'est-à-dire que tu dois constamment être en mouvement.
Oui, toujours le mouvement, toujours le culte aussi derrière. Donc d'ailleurs, ce que l'on voit également dans ce principe de religion un peu dans la citadelle de Fury Road, avec la gloire au V8, avec cette espèce d'hôtel avec les différentes les différents en fait volants qui permettent de conduire les véhicules de l'armée de
Immortan. Qui sont pris pour accrocher sur les voitures. Oui,
c'est ça.
Partie des idées assez géniales du film, mais comme Furiosa, où là, il réinvente complètement même les véhicules qu'il y a. C'est-à-dire que Dementius, le grand méchant qui est joué par Kim Hemsworth, se prend vraiment pour un empereur romain.
Oui.
Et en fait, il conduit des motos comme un char romain. C'est juste que les motos remplacent les chevaux, mais c'est exactement la même chose. Il en a 4 devant avec des je vais dire des laisses. Ça s'appelle pas des laisses, je suis désolé.
Oui,
des harnais.
Des harnais, voilà.
Voilà, et ils triomphent comme ça aussi, quoi. Voilà, et donc, et les autres ont chacun leur véhicule aussi. Voilà, c'est comment le véhicule aussi devient représentatif de la hiérarchie qu'occupe le
personnage. Mais Dementius, c'est un personnage très intéressant dans l'univers de Mad Max, parce qu'il est très représentatif du chaos que représente aussi tout l'univers de la saga à travers les âges, mais aussi sa façon d'évoluer. C'est un personnage qui finalement veut devenir ce grand chef de guerre comme est Immortan Joe, de conquérir la citadelle, mais il va quand même, comment dire, évoluer par les différentes confrontations qu'il va avoir. C'est-à-dire qu'en fait, Dementius, donc on le voit dès le départ, en fait, en tant que meurtrier de la mère de Furiosa, donc qui va la capturer, en plus Furiosa, donc qui va en faire un peu son espèce de, presque d'animal de compagnie,
d'esclave. D'animal de compagnie, ouais.
Et par la suite, donc, à la découverte de cette citadelle, donc, Dementius, avide de pouvoir, veut forcément la conquérir. Et par la première confrontation, en fait, par les couleurs, en fait, le traitement des couleurs qui est très intéressant, je trouve, chez Miller. En fait, Demetrius va passer par différents stades de couleurs. Donc, il va prendre le rouge, à travers notamment les premiers feux qu'il va prendre.
Oui.
Donc, il va devenir un peu le rouge, le guerrier. Puis le gris, la sagesse, et finalement le noir par la noirceur, la mort. Mmh. Donc il y a vraiment toute cette évolution physique, visuelle et aussi narrative de ce personnage que je trouve absolument intéressante, parce que finalement ça va expliquer aussi le principe du point de vue de la vengeance et, et le questionnement de la vengeance qui est très très intéressante chez Furiosa.
Oui, ouais, ouais, Furiosa, c'est vraiment la grande thématique du film, c'est la vengeance, quoi, vraiment, et le seul objectif.
Et on revient un peu finalement comme l'était un peu dans le premier Mad Max.
Tout à fait, et c'est le seul objectif du personnage de Furiosa durant tout le film, c'est se venger de la mort de la mère par Dementus, et qui. Et il n'y a même pas de dialogue, en fait, c'est vraiment une. C'est là qu'Anna Taylor-Joy est assez forte dans le film, juste dans le jeu regard, juste il y a ça, quoi, il y a même pas besoin de parler ni
comme
quoi que ce soit.
Comme l'a fait Mel Gibson en son temps.
Et Mel Gibson dans son temps, tout à fait. C'est des personnages mutiques et encore une fois parce que c'est des personnages dans lesquels on peut mettre nous spectateurs tout ce qu'on veut dessus aussi à ce moment-là. Et Dementus, c'est très intéressant ce que tu as dit, c'est que c'est un personnage de méchant mais qui presque ne saurait pas quel méchant jouer en fait.
Ouais.
On parlait des chars d'empereur romain, mais après il a d'autres d'autres styles, et après il devient maître d'une citadelle, du coup il devient fou.
Et il a aussi ce principe de background, c'est-à-dire qu'en fait aussi là, il est devenu en fait un grand chef de guerre suite aussi à la perte de sa famille. Donc
oui,
il y a aussi toute cette évolution-là. Donc en fait, il pourrait être également un Max aussi, d'une certaine manière.
Complètement. Mais dans tous les Mad Max, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, le background, Max n'est pas le seul à souffrir. C'est un personnage qui dit ça dans le 2 à Max. Voilà. Tu n'es pas le seul à avoir vécu ce que tu as vécu.
En fait, ce sont des personnages qui se retrouvent dans un purgatoire.
Complètement. Qui ont traversé des choses à cause de ce post-apo, qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Et après. Libre arbitre ou pas de choisir telle ou telle voie.
C'est ça.
Mais en tout cas, voilà, Dementus représente assez bien tout, tout ce qu'on pourrait devenir. Et vraiment, le chaos est très juste parce que c'est le personnage chaos par excellence. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'a pas de personnalité forte à laquelle se rattacher. Et donc, il peut être tout et n'importe quoi.
C'est
comme
ça. La confrontation entre Immortan Joe et Dementus, en fait, se voit pas forcément par le questionnement à vide de pouvoir, mais en fait, pas aussi par le principe de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'en fait, Immortan Joe, c'est quelque chose de très calibré. On est sur quelque chose de très, on va dire, empire romain, peut-être à part ses fils qui sont un petit peu au-dessus des autres tribuns. D'ailleurs, on entend des termes comme protectorat, tribun et compagnie. Hein, donc, d'une certaine manière, il y a vraiment un peu une refonte, en fait, de cet empire-là. Et chez Dementus, c'est un peu plus chaotique, en fait. C'est vraiment sur du, comment dire, sur de l'aspect impulsif. Et forcément, c'est ce qui va causer sa chute, notamment quand il veut s'occuper de Gastown, qui n'arrivera absolument pas à gérer.
Ouais, complètement. Et puis, il y a... Attends, vas-y, redis. Moi, j'ai beaucoup trop d'idées dans la tête.
Que je disais avant, là.
Ouais, ouais.
Sur le principe que la confrontation Dementius Immortan Joe, en fait.
Oui, oui.
Idéologiquement.
Non, et tu parlais justement de comment la construction de ces empires, ça rejoint ce qu'on disait sur les voitures. C'est-à-dire, pour créer un nouveau monde, il faut forcément se rattacher à ce qui avait été dans l'ancien monde. Et donc, ça passe par les mythologies qu'on connaît de l'Antiquité dans Furiosa, où on reprend ce principe-là, quoi. Et vraiment, le recommencement ne peut pas se faire sur une construction d'idées nouvelles, mais plutôt en reprenant des bases sur lesquelles nos sociétés aujourd'hui, hors Mad Max d'aujourd'hui, sont fondées aussi, quoi.
Oui, forcément.
Et donc, ça rejoint le cycle dont tu parlais, c'est-à-dire que même dans le post-apo où tout est à refaire, en fait, on va recommencer, essayer de reproduire ce que nous, on a connu dans l'ancien monde comme base aussi de construction.
Et surtout que Mad Max, en fait, par son idéologie, par sa représentation, par son esthétisme, a influencé beaucoup de choses par la suite. Parce que forcément, ça a été un des pères fondateurs du cinéma de série B post-apocalyptique, et aussi même dans d'autres milieux. Hein, vous prenez Ken le Survivant, vous comprenez à quel point l'auteur, en fait, s'est énormément inspiré de l'univers de Max, mais va même, je dirais même, amplifié par ses dessins, tellement c'est fourni en termes de détails, quoi.
Ouais,
mais le détail est très important chez tous les, on va dire, créateurs de monde post-apocalyptique, parce qu'il faut quand même, même si on a le principe de suspension d'incrédulité, il faut quand même une certaine cohérence au milieu, quoi.
Oui, complètement. Mais Mad Max a complètement défini, enfin, l'imaginaire collectif définit beaucoup de choses de ce qu'était le post-apo, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, surtout le 2, quoi. Hein, je veux dire, après, il y a eu l'avènement d'autres choses. Il y a eu l'avènement du zombie, il y a eu l'avènement de films beaucoup plus noirs, comme La Route, je pense. Voilà. Et même d'autres œuvres culturelles, mais en tout cas dans l'imaginaire collectif, Mad Max a eu un impact hyper important. Dire combien de personnes, on leur parle de post-apo, imaginez des mecs en cuir avec des voitures dans le désert, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment la grosse force de George Miller. Et bien sûr, après, ça a emmené. Est-ce que ce serait pas l'occasion de Roland de parler de Johnny Hallyday
De Terminus, c'est ça
Terminus,
que tu veux parler.
Tu vois, voilà,
bah oui,
bien
parce
sûr.
Que ça a inspiré beaucoup de choses, hein, donc, notamment il y a eu Terminus. Qui est un film de série B franco-italien avec ce bon vieux Johnny, avec, avec un camion qui lui parle, avec une espèce de voix qui sort de l'autoradio, c'est quand même assez troublant. On a aussi également eu, par exemple, Diesel, hein,
Diesel
avec Gérard Klein, hein,
bien sûr.
Qui est un espèce de mi-semi-Ciao Pantin, mais dans un monde post-apo avec Agnès Sorel également. Il y en a eu plein d'autres, hein, les guerriers du Bronx et compagnie. Donc c'est, forcément, ça a été une étymologie très représentative, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on faisait du post-apo, il fallait une grosse bagnole, du cuir, et un désert.
Et un désert. Bon, un des seuls films qui aurait à sauver, ce serait La course à la mort de l'an 2000 de Corman, quoi,
oui,
tu
qui
vois.
Oui, qui est plus...
Qui reprend plus un truc d'arène, mais bon,
voilà.
C'est post-apo aussi, hein,
oui,
ça
oui.
Se classe dans ce contexte-là, mais c'est plus une compétition d'arène, et voilà, mais qui... En tout cas, qui reprend bien la faculté de filmer des courses-poursuites, vraiment, de manière très très forte.
Oui.
Et là, c'est un des grands aspects aussi de pourquoi on aime beaucoup Mad Max, c'est-à-dire ses courses-poursuites en bagnole.
Ouais, j'allais rebondir là-dessus, qu'on retient-on le plus de la saga Mad Max, les séquences d'action, parce que finalement, Miller est une machine de guerre en termes là-dessus. Il suffit de revoir en fait ce qu'il a fait avec les deux derniers, Fury Road et Furiosa. Même si Furiosa, on peut remarquer quand même, je pense, peut-être un petit peu plus facilement, quelques effets numériques. Mais en fait,
c'est assumé d'ailleurs,
Miller, il s'assumait. Ouais. Mais Miller, en fait, a voulu toujours travailler quand même ce qu'on appelle le practical effect, donc les effets non numériques et forcément directement en termes de travailler sur les cascades, sur les différents véhicules. Les différents véhicules ont vraiment été développés, existés. Ils ont été charcutés dans le désert de Namib en Namibie.
Complètement, oui.
Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je vais pas repolémiquer là-dessus. J'en avais déjà parlé il y a longuement dans plusieurs émissions par la suite. Mais c'est vrai qu'en fait Fury Road a permis de relancer un peu ce qu'avait fait Miller en fait auparavant avec le 2 et le 3, parce que finalement entre le 3 et Fury Road il y a quasiment 25 ans d'écart.
Complètement. Et avec toutes les révolutions techniques qu'on a aujourd'hui.
Voilà.
Et ce qui est très intéressant, c'est que Fury Road, en fait, le numérique, il s'en sert surtout pour rajouter des couleurs, en fait, pour créer du décor, en fait. Et pas forcément... Je parle pas de créer du décor comme Marvel peut le faire avec des fonds verts et on va mettre tout derrière. Non, c'est vraiment la tempête de sable qu'on va créer. On va créer tel élément de couleur au fond, etc. Tout le reste des courses-poursuites, c'est vraiment filmé. C'est-à-dire que vraiment... alors, grâce à aussi un effet technique, pratique, les acteurs étaient à des harnais, c'était hyper sécurisé, mais vraiment, à chaque fois qu'on voit Charlize Theron, Tom Hardy, Nicolas Hoult ou n'importe quel acteur sauter sur des véhicules, c'est vraiment eux qui sont en train de le faire et c'est en train de rouler et c'est toujours très impressionnant à voir. La plus impressionnante restera toujours celle de Mad Max 2, quoi, où là vraiment tu te dis, mais comment vous avez fait parce
que il n'y a
pas de retouche, quoi, tout est
non,
pur dans ce qu'il a filmé au début. Ouais, la course-poursuite de fin, je parle bien sûr, et que des mecs qui passent à ça des roues, qui virevoltent, qui embrochent des camions avec leurs lances. Enfin, c'est de
ça
la folie.
Ça me permet de redire encore une fois le plus que les cascadeurs australiens sont des fous furieux.
C'est des fous furieux, d'ailleurs. Il y en a plein qui ont été blessés dans le 1 et dans le 2. Il y en a un qu'on voit qui est gardé comme séquence, qui s'est carrément pété la jambe en faisant un truc, quoi. Et même dans le premier, tu vois, il n'y a aucune sécurité. Ils sont en train de glisser
y a
sur le bitume. Il tombe à moto, enfin c'est n'importe quoi, mais c'est pour ça que la course poursuite de Mad Max 2 reste une des plus importantes de l'histoire du cinoche aussi, quoi. C'est parce que il y a toute cette folie et puis elle est amenée aussi par toute cette tension qu'il y a par rapport à l'histoire qui se passe, c'est-à-dire qu'il voit vraiment ce besoin de se tirer d'échapper à Humongous et en vient du coup à Fury Road où là le mec fait carrément le pari de tenir tout un film sur une course poursuite, quoi. et il y arrive. En fait, on s'en lasse pas de ces courses-poursuites. Toute sa narration, elle va être vraiment canalisée dans ce mouvement perpétuel et dans cet aller-retour qu'on voit, quoi. Mmh. Et tout le reste va être, comme on a dit, des détails, des comportements, des dialogues entre les personnages, mais très très peu, quoi. Mais voilà, donc c'est vous dire la maîtrise qu'a George Miller pour filmer ça, pour faire tenir tout un film simplement sur ce pari-là de faire une course-poursuite.
Ouais. Et surtout, ouais, sa façon de travailler sur dans Fury Road, notamment toute la séquence où tout se déroule en tempête. Donc en plus, on voit moins en moins de choses, comme les personnages principaux, en fait. Donc ils savent plus où ils vont. Et ça montre des séquences vraiment. Là où on arrive sur le vrai pur apocalyptique. C'est-à-dire qu'en plus, on a une tempête de sable, il y a des orages, c'est des éclairs partout. C'est le sentiment que la survie est impossible.
Le monde est hostile, quoi. Voilà. Le monde est très hostile.
Est totalement hostile, ouais.
Le monde est hostile et nous-mêmes, on est hostile dans ce monde, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et alors, ce que je trouve génial pour Furiosa après, c'est que dès la première séquence, Miller dit ça ne sera pas Fury Road, tu vois. C'est-à-dire que, ok, j'ai fait une course-poursuite dans le Fury Road qui était vraiment hyper énervé, quoi, vraiment avec un montage hyper fabuleux, hein, le montage de Fury Road, il n'y a rien à dire, c'est un des meilleurs qu'on ait vu ces dernières années, mais là il commence et c'est une course-poursuite, la première séquence de Furiosa, mais qui est d'une lenteur assumée et qui annonce vraiment ce que va être Furiosa, quoi.
Voilà, et surtout ça remet les bases du principe post-apocalyptique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait toute la séquence du début, donc en fait Furiosa, donc qui est dans cette espèce de petit
d'Eden, voilà,
se fait capturer donc par des espèces de voyous malfrats en fait qui sont à la solde de Dementius, mais qui sont en fait considérés comme des chiens, en fait, hein, parce qu'ils le disent eux-mêmes. Hein, si on ramène quelqu'un, on arrivera peut-être enfin à être considéré comme un peu plus haut dans la caste. Alors que les autres, enfin voilà, ils sont vraiment considérés comme de la merde, et ils le disent clairement. Et en fait, toute cette course-poursuite avec donc la mère, qui elle, en fait, au fur et à mesure, donc, va les abattre un par un à moto, elle va surtout en fait revenir à chaque fois sur chaque décombre pour reprendre l'essence, pour reprendre en fait des indices, des pièces, et ce qu'il en faut par la suite, quoi. Donc ça montre aussi le vrai principe du post-apo, c'est-à-dire que forcément il y a le principe de piller les ressources des autres.
Complètement. Et du coup, c'est très là. La première course-poursuite, elle est vraiment lente et elle dure bien un quart d'heure au début. Hein. Vraiment, c'est tout de suite, ça vient dire non, ça va être vraiment les personnages qui évoluent dans cet univers plutôt que l'action qui va être sur le devant de Furiosa.
Il y a deux autres séquences aussi que j'adore énormément dans Furiosa. C'est un, la confrontation en fait avec l'ancien chef l'ancien bras droit de Dementius qui est parti, donc Octobos. Toute cette séquence de course-poursuite avec la première sortie de camion auquel Furiosa donc tentait de s'échapper pour repartir vers l'Eden, donc qui est caché en dessous avec une moto. Toute cette séquence-là est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir donc au fur et à mesure les véhicules se rapprocher du camion, donc le prendre en étau pour le piéger. Et d'un seul coup, en fait, plusieurs ennemis vont être projetés finalement plus dans les airs par la suite avec des parachutes. Et là, la caméra continue de s'élever
Il
y a vraiment un travelling de travail
incroyable. Oui.
Très limpide, tout en gardant vraiment toute la visibilité à l'écran. Et ça, c'est extrêmement fort de la part de Miller.
Oh, c'est très 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 fort. De toute façon, Furiosa, pour moi, a toutes les qualités et bien d'autres que Fury Road avait. C'est-à-dire vraiment, pour tout ce qu'on a dit, mais les séquences de course-poursuite sont moins présentes que dans Fury Road, évidemment. Mais comme tu dis, celles qui y sont, il y a une maîtrise de réalisation qui est à aucun point commun puisse être fait avec d'autres.
C'est
quoi.
Ça.
Avec tout ce background d'Ancien Testament qui est convoqué, tu en parlais d'Eden, elle s'en va de l'Eden aller vers un autre monde, elle est enlevée de là pour aller rentrer dans le péché absolu, donc la vengeance et la violence,
c'est
quoi. Et c'est marrant parce que oui, plus d'effets numériques, mais quand même, quoi, tu avec une vraie cohérence et une vraie poésie dans la construction des mondes et des décors, en fait, dans Furiosa.
Surtout que Furiosa, c'est un personnage qui finalement va partir plutôt sur la route de la vengeance plutôt que de retrouver son monde à elle.
Ah mais complètement, mais d'ailleurs il n'en est jamais question, voilà. C'est-à-dire que vraiment, elle se pose même pas la question, ça va être tout de suite, on sait, ok, tu t'as tué ma mère, avec une sublime mise à mort, enfin je m'en souviendrai encore, ouais, quoi. La mise en image de la mort de la mère est incroyable, ouais. Avec la fin de séquence qui finit dans ses yeux à elle, cut, ok, t'as compris, son objectif maintenant, c'est ce trauma-là, ça va être de se venger, et jamais tu te reposes la question qu'elle va retourner d'où elle vient, ça n'existe même plus en fait. Ouais. Peut-être au sens littéral, ça n'existe plus d'ailleurs.
Ce sera une motivation à elle par la suite, parce que forcément, quand elle va découvrir ce qui se passe à la citadelle envers les femmes, envers les femmes valides, donc ça va la pousser quand même finalement à trouver cette notion de liberté par la suite. Quoi.
Et en fait, qu'on sait qu'il n'existe pas, parce que dans Fury Road, ça a disparu, et elle retrouve le reste des habitantes de cette terre.
Que cette terre n'existe plus.
Que
c'est devenu en fait un gigantesque bourbier.
Complètement. Avec ce parti
des hommes et chasse.
Ouais, des hommes et chasse dans une nuit américaine bleu. Enfin, voilà, des choix radicaux encore de réal qui fonctionnent, quoi.
Oui, pour terminer un peu là-dessus, c'est vrai que pour les derniers mots, on peut vraiment dire que Miller est un cinéaste de la radicalité, mais de la radicalité à travers des propos quand même ultra cohérents.
Oui, et puis surtout...
C'est-à-dire que rien n'est gratuit.
Non, jamais rien. Il y a peu de cinéastes comme Miller qui font attention au sens du détail et aux moindres choses qui peuvent faire une cohérence dans le récit. Et Max en fait partie, mais comme d'autres, comme son 3000 ans à t'attendre, qui était fabuleux aussi quand il est sorti. Même Babe, quoi, c'est quand même assez fou quoi, ce que le mec a réussi à faire.
Et
Happy Feet. Non, mais quand même...
Non, parce qu'il faut quand même le rigoler. C'est le même réel. George Miller, le réalisateur de Mad Max, a également fait la saga Happy Feet et Babe 2, pardon.
Et Babe, alors il a écrit le premier,
il a réalisé le deuxième.
Il a surtout fait le deuxième. Mais en tout cas, c'est pour dire que déjà, c'est rare d'avoir une saga qui est complètement réalisée par ce même réalisateur qu'est George Miller. Ouais. Mad Max en fait partie et c'est pas pour rien. C'est une des mythologies les plus intéressantes et les plus riches qu'on ait eues dans l'histoire du cinéma. En fait, Mad Max est... Parce que George Miller est un artiste de grand talent pour conter de grandes histoires. Quoi. Et Furiosa est vraiment la consécration de l'entreprise Mad Max. Quoi.
Sa carrière de cinéaste en fait, a tellement évolué aussi à travers les différents Mad Max qu'en fait il a réussi à développer pas qu'une simple série B par la suite, mais vraiment totalement tout un univers
et
avec
être...
une certaine cohérence, avec une certaine hiérarchie et surtout forcément avec une certaine question de l'humanité derrière. Quoi.
Et être le véritable outsider face à ce marché de blockbuster qu'on connaît aujourd'hui, quand Fury Road est sorti, ça a été autre chose et de très très bon.
Miller a encore cette aura en fait, dans le milieu du cinéma, même dans le milieu du cinéma américain, encore dans le milieu du cinéma américain, parce que je me rappelle quand Fury Road est sorti, c'était marqué comme « From the Mastermind ».
Oui.
Donc, ça pose déjà les bases quand même.
Quoi, voilà.
Le génie, George Miller. Donc, ça montre quand même que c'est un mec qui est, malgré le non-succès de Furiosa, malheureusement, il est quand même encore toujours extrêmement bien établi. Après, on va dire, petit point négatif, c'est vrai que malheureusement, l'échec de Furiosa, je ne sais pas si le prochain Mad Max sera en production. D'ailleurs, Tom Hardy l'a dit lui-même. C'est pour l'instant pour parler, mais c'est pas quelque chose qui va avancer par la suite. Quoi.
Ouais, ça fout un petit coup de béquille, hein, surtout que la Warner sont quand même des gros relous. Quoi.
C'est des gros relous, surtout quand il n'y a pas de rentabilité.
Ouais, bah absolument. Donc voilà, il est encore en salle, foncez voir Furiosa si c'est pas fait.
Ouais,
vraiment,
je crois que c'est même la dernière semaine. Donc si vous ne le voyez pas mercredi, bah tant pis pour vous. Va falloir attendre 4 mois pour la sortie vidéo. Quoi.
Et rattraper parce que vraiment c'est un des grands films de cette année quand même.
Exactement.
Un des très grands films de cette année et vraiment tout ce qu'on aime dans Mad Max. Quoi. Non, faut voir Furiosa quoi. Furiosa et faut revoir Mad Max quoi vraiment.
Tout simplement. Merci Seb.
Mais avec plaisir.
Merci tout le monde. Et en tout cas, on se retrouve à très très bientôt pour une prochaine émission. Ciao tout le monde.
As the world falls around us, How must we brave its cruelties?